Biston klack, biston klack, biston klack. Nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack. D'accord pour les chanteurs, poètes, biston klack. Né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
On dit la peine capitale, capit a, du latin caput, tête. La peine la plus haute, celle qui touche à la tête, celle qui tranche la tête. On dit aussi monter sur l'échafaud, aller à l'échafaud, c'est un souvenir de la Révolution. Aujourd'hui, il n'y a plus d'échafaud, la machine est à même le sol, au niveau de l'homme qui va à sa rencontre, conscient de perdre la vie à l'instant. On dit aussi les bois de justice, comme s'il y avait une justice dans ces bois de brigands où se consomment brièvement à l'aube des noces de sang. On dit aussi la veuve.
La veuve auprès d'une prison, dans un hangar sombre demeure. Elle ne sort de sa maison que lorsqu'il faut qu'un bandit meure. Dans sa voiture de gala qu'accompagne la populace, elle se rend non loin de là et triste descend sur la place. Avec des airs d'enterrement, qu'il gèle, qu'il vente ou qu'il pleuve, elle s'habille lentement, la veuve. Les témoins, le prêtre, la loi, voyez, tout est prêt pour la noce. Chaque objet trouve son emploi. Ce fourgon noir, c'est le carrosse. Tous les accessoires y sont, les deux chevaux pour le voyage. Et deux paniers pleins de son, la corbeille de mariage. Alors tendant ses longs bras roux, bichonné, ayant fait peau neuve, elle attend son nouvel époux, la veuve. Voici venir son prétendu sous le porche de la roquette. Appelons le mal attendu, la veuve à lui s'offre coquette. Pendant que la foule autour d'eux regarde frissonnante et pâle, dans un accouplement hideux, l'homme crache son dernier râle. Car ses amants claquant du bec, tués dès la première épreuve, ne couchent sous l'œil du badaud, comme en son boudoir, une fille. La veuve se lave à grande eau, se dévêt et se démaquille. Impassible au milieu des cris, elle retourne dans son bouge. De ses innombrables maris, elle porte le deuil en rouge. Dans sa voiture se hissant, bouge horrible que l'homme abreuve. Elle rentre buver son sang. La veuve.
Notre émission de ce jour a pour thème les juridictions d'exception pendant la guerre d'Algérie. Elle a été réalisée à partir d'un document, un numéro de la revue Dialogue, produit par la commission Histoire du barreau de Lyon. Ce document, paru en 2012 à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie, présente un certain nombre de témoignages proposés par des avocats ayant été impliqués dans la défense et l'accompagnement d'Algériens jugés pendant la période de la guerre entre 1954 et 1962, en particulier à Lyon. En fait, c'est essentiellement d'un plaidoyer contre la peine de mort qu'il s'agit. Nous vous proposons de parcourir cet ouvrage à travers la lecture de témoignages qu'il comporte, entrecoupés d'illustrations musicales autour du thème de la peine de mort. Bonne écoute.
Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. De vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
Notre confrère Benny Merad, avec lequel je me trouvais en cabinet commun, m'a demandé de le suppléer presque au dernier moment pour la défense d'un Algérien devant le tribunal militaire qui siégeait à Dijon. Compte tenu des textes qui avaient été promulgués par François Mitterrand, alors garde des Sceaux, cet homme risquait la peine de mort. Il ne contestait d'ailleurs pas les faits qui se rapportaient directement à la guerre d'Algérie. Contrairement à beaucoup de dossiers dans lesquels les enquêteurs ne s'intéressaient pas particulièrement aux motivations, celui-ci contenait des déclarations politiquement intéressantes. Notre client s'était exprimé en déplorant la politique suivie par le gouvernement Molé et exprimait son espoir de retour du général de Gaulle qui, à ses yeux, était le seul à pouvoir apporter à l'Algérie la solution politique qui s'imposait. Mais les faits étaient constants et revendiqués. De plus, ses déclarations sur le retour désiré du général n'étaient vraiment pas à l'époque une circonstance pouvant attirer l'indulgence. Il a été condamné à mort. Les délais pour que la Cour de cassation statue sur le pourvoi ont fait qu'il a été rejeté alors que mai 58 avait ramené de Gaulle au pouvoir. Dès son rejet, je lui avais bien entendu fait présenter un recours en grâce. Un après-midi, à 15h, je me suis donc rendu à l'Élysée pour être reçu par le général de Gaulle. Introduit par un aide de camp dans son bureau, il est venu au-devant de moi pour m'accueillir avec la plus grande courtoisie, alors qu'il devait considérer qu'il recevait un gamin, qui plus est avocat, plaidant pour le FLN. Assis à son bureau, il m'a prié de m'expliquer sur le soutien du recours. Bien entendu, j'ai insisté sur l'espoir qui avait été exprimé au moment de l'enquête par cet homme qui avait souhaité son retour dans des termes émouvants. J'ai insisté sur le combat politique pour l'indépendance qui avait motivé les faits criminels qui avaient abouti inéluctablement à la condamnation. Il ne s'agissait pas d'un assassin, mais bien d'un combattant pris dans un engrenage de guerre qui le dépassait largement. Au terme de mes explications, le général de Gaulle m'a simplement dit « Je vous remercie, maître, de vos indications. J'ai pris connaissance du dossier et je dispose maintenant de tous les éléments pour prendre ma décision. » Comme de Gaulle n'avait encore fait exécuter aucun Algérien, et compte tenu des déclarations très particulières de mon client, j'osais espérer que la grâce lui serait accordée. Peu après, un samedi après-midi ou dimanche matin, un coup de téléphone de l'Élysée m'apprenait de manière lapidaire que la grâce avait été rejetée. Rendez-vous était pris dès l'aube du lundi matin à la prison de Dijon pour l'exécution. Mon désarroi était total. J'avais à la fois besoin de me recueillir et en même temps de pouvoir me confier à un confrère qui serait capable de m'apporter son soutien pour affronter pour la première fois de ma vie cette épreuve. Ayant tenté de joindre Fort Jarosson, qui était absent pour le week-end, j'ai prévenu bien évidemment Benny Merad, qui m'a indiqué immédiatement qu'il m'accompagnerait. Ensemble, nous nous sommes retrouvés chez Paul Bouchet avec un ou deux confrères. Après avoir partagé un repas, nous avons veillé ensemble jusqu'au moment du départ par la route en pleine nuit pour Dijon. Bendy et moi étions dans l'incapacité de dormir, conscients que dans quelques heures il faudrait accompagner à l'échafaud celui que je n'avais pas été capable de sauver. À l'extrême pointe de l'aube, nous étions rassemblés avec ceux qui devaient aussi assister à l'exécution. J'ai le souvenir que les gardiens de prison étaient aussi éprouvés que nous, ses défenseurs, car ils connaissaient le condamné depuis le début de sa détention et avaient eu l'occasion de l'apprécier. Ils m'ont exprimé qu'ils regrettaient et ne comprenaient pas le rejet de la grâce. Le moment du réveil du condamné est absolument atroce. Dans un premier temps, il n'a pas compris. Puis il s'est complètement dominé avec certains gestes dérisoires, comme de vouloir absolument enfiler maladroitement ses chaussettes. Puis, les aides du bourreau ont procédé au préliminaire de toute exécution. Tout au long de ce temps, j'étais bien entendu le plus proche possible de celui qui me parlait avec confiance et beaucoup d'amitié. Puis, tout s'est déroulé très vite et définitivement.
La cigarette sans cravate, qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle comme une rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui pousse dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style ce cri qui n'a pas la rosette. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître.
Le moment politique avait amené de Gaulle à reprendre les exécutions pour donner des gages aux activistes en même temps qu'il commençait à négocier avec le FLN. La raison d'État, une fois encore, avait primé, broyant un de ceux qui, au milieu d'événements de guerre, avait été un des rares à exprimer le souhait du retour de celui qui a finalement décidé de sa mort. Plus tard, en 1960, un mois peut-être avant mon mariage, je retournais une fois de plus à l'Élysée pour tenter d'obtenir la grâce de deux clients que j'avais défendus devant le TPFA de Lyon. L'un, marié et père de 6 enfants, contestait les faits, tandis que l'autre proclamait sa fierté de combattre pour une Algérie indépendante. L'audience s'est déroulée de la manière habituelle, la même courtoisie et la même absence totale de dialogue, mais j'avais perdu l'espoir d'une décision favorable. Effectivement, j'ai été prévenu du moment de l'exécution, de la double exécution. Il est difficile d'évoquer les terribles sentiments que l'on a en remontant un réveil et en se disant qu'il ne faut pas être en retard. Les moments préparatoires concernant mon père de famille ont été déchirants. Il m'affirmait sa totale innocence et refusait de mourir. Il est des moments où l'on ne peut plus rien dire tant les mots apparaissent dérisoires. Il fallait aussi que j'assiste dans le même temps celui qui faisait preuve d'une totale maîtrise de lui, me demandant de dire aux siens qu'il était fier de mourir pour l'Algérie. Absolument seul, j'ai conduit l'un après l'autre ces hommes à la guillotine. Je pense que l'on ne peut plus être le même près de tels moments. Pendant 2 jours, je me suis littéralement réfugié dans un camp de vacances pour jeunes Algériens qui avait été suscité par Hervé Bourche près du lac d'Aigbelette. À l'époque où Hervé ne se prenait pas encore pour un grand homme, nous avons pu passer des moments qui m'ont redonné confiance. Mes associés et Marie-France se demandaient où j'avais disparu, car je n'avais pas eu le courage de parler à quiconque de ces 2 exécutions. Quelque temps plus tard, l'un de mes clients, l'acheteur Moussa, qui était responsable FLN du quartier des condamnés à mort à Montluc, m'a affirmé que celui de mes clients qui niait tout était en fait le responsable de l'opération, mais que le second n'y avait absolument pas participé. Cela ne m'a pas vraiment apaisé. le pourvoi de Lachdar Moussa a été rejeté. Mais il a bénéficié d'une grâce dans des conditions très particulières. Un soir vers 19h, à mon cabinet, j'ai reçu un appel téléphonique du ministère de la Justice. C'était Hervé Bourges. « Yves, le garde vient de me remettre le dossier d'un nommé Lachdar Moussa pour lequel il donne un avis défavorable pour une grâce. J'ai vu que tu étais son défenseur. Que peux-tu me dire qu'il ne soit pas au dossier ?» J'ai dit à Hervé tout ce que je savais sur Lachdar Moussa, et notamment qu'il faudrait des hommes de sa qualité pour les lendemains qui s'annonçaient encore timidement. « Bon, me dit-il, je retourne dans le bureau de Michelet et je te rappelle. » Un moment après, il m'a rappelé pour m'indiquer que grâce à ses indications, le garde des Sceaux avait alors porté un avis favorable. Je n'ai pas eu à me rendre à l'Élysée cette fois-ci. À quoi tient la vie d'un homme ? Yves Berger. Georges Cochet, avocat honoraire. Je suis intervenu dans la deuxième affaire évoquée par Maître Berger dans son article comme commis d'office, moi aussi en remplacement d'un confrère algérien qui venait d'être interné en raison de ses activités politiques. Nos clients, s'estimant privés du libre choix de leurs défenseurs, s'étaient opposés à ce que nous plaidions. Les mêmes charges pesaient sur les trois, leur sort paraissait lié. Ils furent tous les trois condamnés à mort. Nous avons été convoqués le même jour par De Gaulle. Yves Berger a été introduit le premier, tandis que j'attendais mon tour en compagnie du colonel Bonneval, aide de camp du général, dont le bureau donnait directement sur le bureau de celui-ci. Mais soudain, Jacques Chaban-Delmas, alors président de l'Assemblée nationale, entre dans le bureau à l'improviste, il vient de clore la session parlementaire, et l'usage veut qu'il vienne en rendre compte aussitôt au président de la République. Il est naturellement reçu avant moi, et je reste près de 2 heures à attendre mon tour avec Bonneval, qui filtre les communications téléphoniques du président et me les commente avec bonhomie pour calmer ma nervosité. Un appel pour Madame de Gaulle, c'est une de ses amies qui veut échanger une recette de cuisine. Un appel de la chancellerie de Bonn, Adenauer vient en France et va atterrir dans moins de 2 heures à Villacoublay. Bonneval regarde sa montre et s'inquiète car de Gaulle doit l'accueillir à sa descente d'avion. Il est navré pour moi et me dit que je devrais sans doute revenir un autre jour. Mais Chaban sort en s'excusant. De Gaulle a encore 10 minutes à me consacrer. Il me fait introduire et prononce la phrase rituelle « Maître, je vous écoute ». Il m'écoute, sans dire un mot. Pense-t-il encore à Chaban et à ses maudits députés, ou déjà à ce qu'il va dire à Adenauer pour réconcilier la France et l'Allemagne, ou peut-être au quota de tête qu'il s'est fixé en vue des pourparlers d'Évian. Bref, après ces 10 minutes d'audience, dans la précipitation d'une journée chargée pour lui de lourdes responsabilités, il a gracié mon client et fait guillotiner les 2 clients d'Yves Berger. Peut-être à pile ou face.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer, débrer l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Cloche peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. On traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
François Lafrong. Mon client s'appelait Ali Hassni. Il fut condamné à mort, mais le jugement fut cassé et un nouveau procès eut lieu quelques mois plus tard. J'ai oublié le nom du commissaire du gouvernement, mais ni sa diatribe ni sa péroraison. Vous êtes une juridiction d'exception, vous devez rendre une justice exceptionnelle, lança-t-il au juge en uniforme. J'ai choisi d'enchaîner. Je ne pense pas que la sérénité puisse aller de pair avec l'exception. Puis j'ai repris un de mes thèmes favoris dans ce genre de dossier. Hassni n'est pas un être d'exception. Il n'est ni un héros algérien, ni un volontaire de la mort. C'était un modeste travailleur comme beaucoup d'autres. Il a été mêlé à un drame épouvantable et pris dans un engrenage auquel il ne pouvait échapper. J'eus à peu près cette conclusion. On veut donc condamner pour l'exemplarité. Celle-ci n'existe pas, bien au contraire, en matière politique, condamner ainsi, c'est courir le risque de l'émulation. Pour en finir, j'ai appelé Victor Hugo à la rescousse et cité sa fameuse phrase « Vous haïssez tellement l'assassin que vous voulez tuer un assassin ». Mon confrère Delay s'inscrivit dans la même veine. La peine de mort ne peut être qu'injuste en raison de tout ce qui manque aux hommes pour bien juger, bien accuser, bien défendre. Nos deux clients furent finalement condamnés aux travaux forcés. Le fait de ne pas être un militant engagé et de ne pas obéir à des mots d'ordre ne m'empêchait pas de poser les vraies questions. Au procès de Shérif Machacha, un commissaire politique du FLN, je défendais un malheureux qui s'appelait Larbi Boukalfa. Quand le commissaire du gouvernement a réclamé une peine exemplaire au nom de la civilisation occidentale, je n'ai pas pu laisser passer et j'ai interrogé le tribunal. Pouvez-vous me dire ce que la civilisation occidentale a donné à mon client? Il est illettré. Quand il est arrivé en France, on l'a logé dans une cabane en toile goudronnée et en planches. Ils vivent à trois là-dedans. L'atmosphère de l'époque ne permettait pas toujours de relativiser les choses. On ne pouvait pas se permettre de comparer les terroristes du FLN aux terroristes d'une autre guerre. Un Algérien qui exécutait un de ses compatriotes pour avoir dénoncé les siens était traité en assassin. 10 à 15 ans plus tôt, des résistants français avaient pourtant agi de même. À l'époque, eux aussi étaient traités de bandits dans les colonnes des journaux. Je pense en ce moment à Abdallah Kabouch, l'homme que j'ai vu mourir. Cet ancien militaire français qui avait combattu en Indochine avait abattu sur ordre le 1er mai 1958 dans le quartier des Brotteaux un autre Algérien, Krish Idriss, accusé par le FLN d'avoir dénoncé plusieurs membres du parti. Après avoir tiré sur sa victime, le meurtrier était parti en courant se réfugier dans un café de la rue Vendôme où quelques minutes plus tard les policiers l'avaient retrouvé en train de caresser un chat. Tout au long du procès, il a fait preuve de fatalisme et s'est refusé à toute déclaration. J'ai raconté à sa place qu'en Indochine, il était du bon côté et pratiquait des atrocités avec l'armée française. En face de lui, au tribunal, il avait des officiers et des sous-officiers français qui rentraient d'Algérie. On le faisait juger par ses adversaires. Il ne pouvait qu'être condamné à mort. Son pourvoi en cassation a été rejeté. J'ai naturellement fait une demande de grâce présidentielle. Le 16 mars 1960, le téléphone a sonné chez moi, très tard, dans la soirée, c'était l'Élysée. Mon interlocuteur m'apprenait que De Gaulle n'avait pas signé la grâce et que l'exécution aurait lieu le lendemain matin à 5 heures. On m'informait au tout dernier moment pour que je ne puisse pas prévenir mon client. Je ne sais plus comment j'ai dormi. Au petit matin, le quartier autour du Fort Montluc était en état de siège et bouclé par les CRS. Je me suis présenté à la prison où attendait déjà le juge d'instruction et le commissaire du gouvernement. Un cortège s'est formé et nous nous sommes mis en marche vers le quartier des condamnés à mort. Le bruit des portes qui s'ouvraient a réveillé les détenus. Ils ont compris et se sont mis à crier « Vive l'Algérie indépendante !» Puis ils ont entonné des chants. Ils ne savaient pas encore lequel d'entre eux on venait chercher. Les clés ont tourné dans la porte de la cellule d'Abdallah Kabouch. Les gardiens sont entrés et l'ont ceinturé. J'attendais dans le couloir avec les autres témoins. Mon client est apparu très pâle mais silencieux. Il a été entraîné jusque sur le perron dominant le couloir et là, les gardiens ont entrepris de lui faire sa toilette et d'échancrer sa chemise. Il ne disait rien, ne résistait pas. Puis quelqu'un, je ne sais plus qui, est venu me dire « On vous laisse en tête à tête ». Je me suis avancé jusqu'à cet homme pour lequel je n'avais rien pu faire. Il me regardait sans me voir. Je ne savais pas quoi lui dire. Je me suis mis à parler comme pour faire du bruit, pour ne pas laisser ces instants au silence. Je lui ai demandé s'il voulait que j'écrive à sa mère. Il a fait oui de la tête. « Voulez-vous que je fasse autre chose ?» Il a bredouillé. « Donnez-moi une cigarette. » Je fumais des Lucky Strike et lui en ai tendu une. Il en a tiré quelques bouffées, les yeux vagues, dans un silence qui me hurlait aux oreilles. Puis tout à coup, alors qu'il n'en avait pas fumé la moitié, il a écrasé la cigarette en se raidissant et m'a dit « On y va ». J'ai appelé. La porte donnant sur la cour s'est ouverte. J'ai vu la guillotine et le panier en osier qui attendaient la tête. Les deux aides du bourreau ont saisi le condamné sous les coudes et l'ont soulevé pour le porter jusqu'à l'atroce machine. Au moment où ils l'ont fait basculer en avant, le supplicié n'a pas pu retenir un cri animal. Le couperet est tout de suite tombé et sa tête a roulé, tandis que les soubresauts agitaient le reste du corps.
Fin 1973, deux condamnés à mort ont été exécutés un matin à 5 heures à Paris. Les présidents, même Nixon, ne se sont pas dérangés pour assister à cette formalité. Le deuxième président de la Ve République française est mort le 2 avril 1974 à Paris. Les présidents, même Nixon, se sont dérangés pour assister à cette cérémonie. Laissez ouvert, j'arrive. De fait, il arriva.
Les villes sont debout la nuit, dans les maisons de l'amour fou. Des appareils marchent tout seuls, branchés sur des soleils de volte. Des enfants jouent à l'amour mort dans des ascenseurs accrochés à d'autres cieux, à d'autres vies là-bas sur les trottoirs glacés. Des assassins prennent le temps de mesurer leur vie comptée, perchés comme des oiseaux de nuit sur leurs armes qu'ils vont tirer. Comme on tire une carte alors qu'on sait qu'on est toujours perdant. Dans le matin, les coups de feu s'agitent comme des menottes. Lorsqu'on les a pris, alors on voit leurs yeux comme des revolvers qui se seraient éteints dans le fond de leurs yeux. Alors on n'a plus peur de ces loups enchaînés, et on les fait tourner dans des cages inventées pour faire tourner les loups devant la société. Des loups endimanchés, des loups bien habillés, des loups qui s'endorment pour enfermer les loups. Je les aime, ces loups qui nous tendent leur vie. Je les aime. Les routes sont des chiffres bleus dans la tentation du printemps, des 220 à la centrale, à 220 vers l'hôpital. Des drogués sortent dans la cour, faire 100 pas avec le vent et la marie dans les poumons. Ils se vendent pour 3 dollars. Des grues qui font le pied de nez aux maisons blêmes mal chaussées, des magazines cousus de noir ressemblent au linge de la mort. Les cathédrales de la nuit ont des cafés au fond des cours. On a flingué deux anges blonds dans un café de Clignancourt. C'est eux toujours les loups qui dérangent la nuit, qui la font se lever dans le froid du métal. C'est eux qu'on chasse alors qu'ils ne tiendraient à rien, à peine un peu d'amour sans le bien ni le mal. Mais on les fait dormir au bout d'un téléphone qu'on ne décroche pas pour arrêter la mort qui vient les visiter, la cigarette aux lèvres et le rhum à la main. Tellement elle est bonne, je les aime, ces loups qui nous tendent la patte. Je les aime. Et les baisers tombent comme des feuilles mortes, les amants passent comme l'or dans la mémoire des westerns. Les images s'effacent tôt dans le journal que l'on t'apporte, et les nouvelles te font mal jusqu'à la page des spectacles. À la une de ce matin, il y a deux loups sans queue ni tête. Ils sont partis dans un panier quelque part, dans un pays doux. Où la musique du silence inquiète les hommes et les bêtes. Ce pays d'où on ne revient que dans la mémoire des loups. Lorsque j'étais enfant, j'avais un loup jouet, un petit loup peluche qui dormait dans mes bras et qui me réveillait le matin vers 5 heures, chaque matin à l'heure où l'on tuait des loups. Qui me réveillait le matin vers 5 heures, chaque matin à l'heure où l'on tuait des loups. Et qui me réveillait le matin vers 5 heures, chaque matin à l'heure où l'on tuait des loups. Je les aime, ces loups qui m'ont rendu mon loup. Je les aime.
On oublie tout. Et les baisers tombent comme des feuilles mortes. Les amants passent comme l'or dans la mémoire des westerns. Les images s'effacent tôt dans le journal que l'on t'apporte et les nouvelles te font mal jusqu'à la page des spectacles. À la une de ce matin, il y a 2 loups sans queue ni tête. Ils sont partis dans un panier quelque part dans un pays doux où la musique du silence inquiète les hommes et les bêtes. Ce pays d'où l'on ne revient. Ce pays d'où l'on ne revient. Ce pays d'où l'on ne revient que dans la mémoire des loups. Je les aime, ces loups, qui m'ont rendu mon loup.
Bernard Gouy. Me voici, le 16 décembre 1959, devant le tribunal militaire d'Orléansville, en Algérie. Le procès concerne 8 accusés. J'en partage la défense avec un officier défenseur. Tous, à des degrés divers, ont participé courant 1957 dans la région de Taniet El Had, sud algérois, à l'une des 2 embuscades au cours desquelles ont été tués 10 puis 12 militaires français. En outre, plusieurs Algériens de la région réputés collaborateurs ou messalistes ont été égorgés. Tous se plaignent d'avoir été torturés. Plusieurs de leurs camarades seraient morts sous la torture. À l'issue de cette sanglante garde à vue, ils ont été présentés au juge de paix de l'endroit. Si tu ne parles pas, je te remets à la sûreté. Le tribunal est présidé par un avocat général à la cour de cassation, mobilisé pour la circonstance et coiffé d'un képi de général. 7 condamnations à mort sont requises. 3 seront prononcées contre Mohamed Sardoun, assisté par le capitaine défenseur, Bakhti Boumerjen et Meki Mendil, mes 2 clients. Le tout au terme d'une seule audience. La cour de cassation, saisie d'un pourvoi en cassation, le rejette 1 mois et demi après, le 4 février 1960. Bien entendu, je forme un recours en grâce. Je suis convoqué pour le soutenir le mercredi 15 juin à 16h devant le général de Gaulle. Le capitaine défenseur, retenu à Alger, me demande de m'occuper aussi de son client. Je dois être le seul avocat à avoir défendu à lui seul 3 condamnés à mort devant un président de la République. Je n'ai pas à m'enorgueillir. La réception est impressionnante, glaciale même. Je bredouille ce que je peux devant la statue du commandeur qui me fait face à son bureau aux côtés d'une énorme map-monde. À ce moment-là, j'ignore que quelques jours avant, le 10 juin, m'ont précédé dans ce même bureau trois chefs de la Villa Yakat, celle-là même de mes clients, avec lesquels le général de Gaulle a secrètement et nuitamment envisagé un cessez-le-feu. Par contre, j'ai en tête son discours de la veille, le 14 juin, appelant à nouveau à la paix des braves, déclarant attendre les dirigeants de l'insurrection pour trouver avec eux une fin honorable aux combats qui se traînent encore. Le climat politique me semble donc favorable. De plus, au sortir du bureau du général, le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature me laisse entendre que mes recours se présentent dans de bonnes conditions. Mon optimisme est renforcé lorsque j'apprends le 20 juin que le GPRA, répondant à l'appel du général, a décidé d'envoyer en France un plénipotentiaire, ce sera Ahmed Bounmenjel. Coup de tonnerre, le 24 juin au soir, un appel téléphonique de la gendarmerie m'apprend que seul Sardoun a été gracié et que mes deux clients, Mendine et Boumerdjen, doivent être exécutés le lendemain à l'aube à Orléansville, le jour même où Ahmed Boumenjel sera reçu à Melun. Je suis prévenu trop tard pour assister au supplice. Je dois me faire substituer par un confrère du lieu qui accepte non sans réticence cette horrible corvée. L'Élysée ne publiera aucun communiqué pour annoncer cette double exécution. Le journal Le Monde, alerté par mes soins, ne croira pas devoir diffuser l'information. Plus de 40 ans se sont écoulés depuis lors. Je n'ai cessé de penser à ce drame et à mes insuffisances. Je n'ai toujours pas compris pourquoi de Gaulle a fait exécuter deux patriotes algériens au moment même où ils recevaient ou faisaient recevoir leurs représentants. Pourquoi il a fait silence sur cette double exécution, alors que cette mesure ultime a pour finalité essentielle d'intimider l'adversaire et de satisfaire l'opinion ultra? Pourquoi il a gracié Sardoun, qui était le plus compromis des trois condamnés, les deux autres n'étant que des subordonnés? Mendil avait servi 5 ans en Indochine dans l'armée française.
Serré, poussé dans l'antre des tannés, mots détournés, coups de refrain, tu chantes mais tu n'es plus rien. Cercle de fer, poignée liée, étiqueté, numéroté, les prisonniers sentent les crins du spectre dur des lendemains. À l'aube des vautours casqués, il gueulera à pierre fendre que la mort est une question posée. Dans la nuit monde hurle la mort, écrasant les murs de la geôle, le bourreau, les mains qui tremblent. Le rideau noir va se dépendre. La ville dort, les âmes folles claquent les portes de l'enfer. L'enfer des hommes qui se laissent prendre au grand jeu des espaces morts. Sur le gibet qui va résoudre la vie des plus désespérés, vivre sa mort à en découdre avec les temps de société. Bonjour monsieur le président, je vous demande de respecter le jugement des honnêtes gens, défenseur de la moralité. Et vous, monsieur, mon avocat, je vous en prie, ne parlez pas. Pourquoi remettre au lendemain? Je me paye le luxe de ma faim. De l'Algérie à l'Indochine, les mercenaires se battent bien. Alors laissez la guillotine, remerciez vos hommes de main.
La peine de mort, une honte. Pierre Coenty. Évoquer une exécution capitale lorsqu'on l'a vécu n'est pas chose facile, et reste 40 ans après une souffrance, voire un remords. Mais témoigner est un devoir pour l'histoire de la justice de notre pays, et pour tenter d'aider ceux qui luttent pour l'abolition de la peine de mort dans tous les pays du monde. Voici donc ce que j'ai personnellement vécu. Tout commence très banalement. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie et le FLN fait prélever un impôt auprès des Algériens résidant en France. L'argent récolté étant transporté ensuite par ceux que l'on a appelés les porteurs de valises. Mais un jour, dans la banlieue lyonnaise, cela se passe mal et un Algérien trouve la mort. Celui qui va devenir mon client est arrêté et traduit devant le tribunal militaire. Deux des prévenus, le client de mon ami Jean Delay et le mien, sont condamnés à mort. C'est l'effondrement, pour eux, évidemment, qui sont aussitôt transférés dans le quartier réservé aux condamnés à mort à l'intérieur de la prison Montluc. Effondrement pour nous aussi, leurs avocats, qui en deux décennies de barreau, n'avaient jamais été confrontés à une telle situation et qui ne le prévoyaient pas dans ce dossier relativement banal, opposant deux fractions rivales algériennes. Nous formons naturellement un recours en grâce, nous sommes reçus par le président de la République, qui était alors le général de Gaulle, l'Élysée avec sa majesté, l'homme avec sa grandeur impressionnante. Puis c'est dans un état second, comme un boxeur sonné, que l'on attend la décision ultime qui vous amènera ou non à assister votre client au petit matin dans les quelques jours qui vont suivre. Et c'est le coup de téléphone qui nous apprend que la grâce est rejetée et que l'exécution aura lieu le surlendemain matin dans l'enceinte de la prison Montluc. Plus aucun espoir. Mais nos clients étaient musulmans, nous avons tenté en vain d'obtenir du gouverneur militaire la faveur qu'ils soient fusillés et non guillotinés pour que leur corps ne soit pas mutilé. Le jour dit, devant les portes de la prison, nous avons retrouvé ceux qui, comme nous, devaient assister à l'exécution. Les portes nous furent ouvertes, et là, après avoir contourné la guillotine déjà dressée, j'ai le souvenir précis et inoubliable que nous sommes montés à pas de loup, sans faire de bruit, comme des voleurs de vie, pour réveiller le plus tard possible ceux qui dormaient d'un sommeil inquiet à cette heure-là, dans le quartier des condamnés à mort, attendant leur tour. Les gardiens ouvrirent les portes des deux cellules. Ceux qui allaient mourir ont immédiatement compris, mais ils ne dirent rien. Ils sont impassibles, hébétés, dignes, prêts à cette mort annoncée le jour de l'audience et suspendus à l'issue hypothétique du recours en grâce. Mais les occupants des autres cellules de ce quartier des condamnés à mort, réveillés par le bruit des clés tournant dans les serrures voisines, ont aussi immédiatement compris que, pour eux, ce matin-là n'était pas le dernier et se mirent à hurler des mots de fraternité et de soutien à ceux qui allaient mourir, à frapper contre leurs portes restées fermées et à chanter pour leurs compagnons partant à l'abattoir. Ces cris et ces chants nous suivirent pendant que nous redescendions honteux jusqu'à la pièce où se tenait un imam et où fut proposée la dernière cigarette aux deux hommes qui allaient s'avancer successivement avec autant de courage et de dignité l'un que l'autre vers la machine à donner la mort. Et comble de l'horreur, le bourreau demanda ensuite à Jean Delay et à moi-même, comme deux têtes et deux corps se trouvaient réunis dans le même panier en osier, si nous voulions identifier la tête correspondant au corps de notre client. Nous refusâmes. Nous avons ensuite suivi le véhicule conduisant les restes de nos clients au nouveau cimetière de la Guillotière, où nous avons assisté à leur mise en terre, et nous nous sommes recueillis une dernière fois devant la dépouille de ceux que la société avait mis à mort. 40 années se sont écoulées, mais le souvenir est toujours là et restera ancré dans ma mémoire comme une ignominie, et avec cette lancinante question: ai-je vraiment tout fait pour l'éviter? L'ai-je assez bien défendu? De cette honte qu'est une exécution, ne suis-je pas un peu responsable, coupable? Oui, une exécution capitale est un acte inhumain, d'une autre époque, d'un autre âge. Elle salit ceux qui l'ordonnent comme ceux qui l'acceptent, car nul n'a le droit d'enlever la vie. Comment un croyant peut-il l'admettre sans enfreindre la règle « tu ne tueras pas » ? De quel droit enlever la vie que l'on n'a pas donnée ? Pour défendre la société ? Mais on ne défend pas en tuant. Pour l'exemple ? Mais c'est faux. La peine de mort n'a jamais été dissuasive. Le nombre de crimes n'a pas augmenté depuis son abolition. D'ailleurs, lorsque nous voyons un accident de la route, c'est pendant 10 ou 20 minutes que nous réduisons notre vitesse. Puis nous recommençons à prendre des risques. Nous agissons tous comme si cela ne devait arriver qu'aux autres. L'exemplarité, ça n'existe pas. Et le risque d'erreur judiciaire. La pratique récente des tests ADN a permis d'innocenter aux États-Unis des condamnés qui avaient passé de nombreuses années dans les couloirs de la mort. S'ils avaient été exécutés, ce sont ceux qui les avaient condamnés qui auraient été des assassins. Et repensez qu'à quelques mois près, cet homme qui a été, comme le dit très bien justement Robert Badinter, coupé en deux, aurait été amnistié et libéré par les accords d'Évian et aurait repris le cours paisible de la vie, interrompu seulement par la guerre. Nul n'a droit de tuer, et il est scandaleux qu'une démocratie telle que celle des États-Unis d'Amérique use encore de cette pratique barbare. Le Monde du 4 janvier 2002 nous a appris à la fois que la peine de mort était en recul aux États-Unis, ce qui donne une lueur d'espoir aux abolitionnistes, et qu'en Arabie Saoudite, 3 personnes ont été exécutées pour homosexualité le 1er janvier. C'est une honte. Et nul n'ignore qu'en Chine, aussi, et dans d'autres pays encore, on exécute. Nous sommes au XXIe siècle, dans un monde soi-disant civilisé, que les États arrêtent de tuer, de se transformer en assassins. Nous vous avons proposé une émission autour du thème « Les juridictions d'exception pendant la guerre d'Algérie ». Elle a été réalisée à partir d'un document, un numéro de la revue « Dialogue » produit par la commission « Histoire du barreau de Lyon ». Barreau de Lyon dont l'adresse est au 42 rue de Bonnel, 69003 Lyon. Adresse à laquelle vous pouvez écrire pour vous procurer le document de référence qui comporte les textes que nous avons lus ainsi que d'autres textes et des facsimilés de presse de l'époque. Au fil de ces lectures de témoignages, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. La veuve de Jules Jouy sur une musique de Pierre Larieux, interprété par Béatrice Arnac. La chanson était précédée d'un texte de Jules Jouy, dit par Michel Bouquet. Vous avez entendu ensuite « Dans la gueule du loup », un texte de Kateb Yassine, interprété par les Têtes Raides sur leur musique. Puis c'était la chanson de Léo Ferré, Ni Dieu ni Maître, interprétée par Alain Bert en concert. Ensuite, vous avez entendu le texte de Jean Genet, mis en musique et interprété par Hélène Martin, Le Condamné à mort. Puis c'était le texte de Léo Ferré, qu'il a mis en musique et qu'il interprétait, La mort des loups. Ensuite, de l'Indochine à la guillotine, paroles et musique Alain Bert, interprété par Alain Bert, accompagné par Epsi's Band. Et enfin, pour terminer ces illustrations musicales, c'était le début de Here's to You par Juan Bez sur la musique d'Enrico Morricone. Bonsoir.
Son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque.